France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Dans notre série consacrée à la pensée de Simone de Beauvoir, voici un nouvel épisode, Beauvoir, la question de l'autre, des autres. Il y a une philosophie morale chez Beauvoir et elle se forge assez tôt dans sa vie. Le livre de Beauvoir, Pour une morale de l'ambiguïté, paraît en 1947. Sartre, lui, ne publiera pas de son vivant ses notes de 1947-48 qui se retrouveront dans son livre posthume « Cahier pour une morale ». Et cela tient sans doute, nous en parlerons, à la difficulté de dépasser son point de départ à lui, celui des pages de « L'être et le néant » de 1943, où le regard d'autrui est décrit comme « m'anéantissant, me soumettant », tandis que « retrouver ma propre transcendance », c'est à mon tour engloutir la transcendance de l'autre. Comment fonder l'idée du commun à partir d'une telle tension entre moi et l'autre ? Simone de Beauvoir, elle, a une sensibilité différente. Elle se méfie de la construction même de l'autre absolu, construction dont les femmes font les frais. Cette critique de la notion même d'altérité est manifeste dans ce propos de 1979 sur France Culture, c'était dans les Nuits magnétiques.
Dans la mesure où l'altérité est un certain mythe des hommes par rapport aux femmes, bien entendu, je la récuse. C'est-à-dire dans la mesure où ils font de la femme un être vraiment autre, qui n'est, en somme, qui n'est fait pas partie vraiment de leur humanité, je récuse totalement cette notion d'altérité. D'ailleurs, je suis contre les idées de sorcières, contre les idées d'une vue différente du monde, contre les idées d'une écriture différente. Et je crois qu'en effet, ça y a une grande division dans le féminisme d'aujourd'hui, parce que il y a un grand nombre de femmes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui veulent faire de la femme un être humain femelle, et puis c'est tout, sans que ça implique des différences profondes de langage ou de perception ou de vision du monde. Et il y en a certaines qui revendiquent au contraire les différences. Et là, je trouve que c'est très dangereux, parce que ça amène à, en somme, revendiquer une nature féminine et faire le jeu, finalement, des hommes qui misent sur l'altérité.
Pour Beauvoir, les autres, ce sont d'abord des êtres avec lesquels on a besoin de se lier. Leur regard est une chance.
Moi, j'ai toujours été pour des relations choisies, contre des relations imposées. Remarquez qu'il y a quelquefois des relations qui sont données et qu'on choisit en même temps. Par exemple, avec ma sœur, le fait est que c'est ma sœur et que nous sommes très liés parce que nous sommes sœurs et qu'en quelque sorte, je l'ai choisie comme elle m'a choisie. Mais c'est extrêmement rare. Par conséquent, je répète, je le dis déjà souvent, que je n'ai jamais regretté de ne pas avoir d'enfant. J'aime beaucoup mieux les amitiés. J'aime beaucoup mieux des relations, je répète, que j'ai choisies, que celles qui m'auraient été imposées par la maternité.
Alors pour parler de l'amitié, selon Simone de Beauvoir, de cette idée d'un lien respectueux qui n'abolisse pas la liberté de l'autre, de cette générosité lucide, comme elle le dit dans son chapitre « Les autres » de son livre de 1944 « Pyrrhus et Cinéas », j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Lebon de Beauvoir. Bonjour.
Oui, bonjour.
Agrégée de philosophie, vous êtes la fille adoptive et l'héritière de Simone de Beauvoir. Vous vous occupez de la publication de ses œuvres, des œuvres que vous connaissez très bien, et singulièrement sa vision de l'amitié que vous avez vous-même vécue concrètement avec Beauvoir. Et bonjour Nathalie Deprat.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, notamment spécialiste de la pensée d'Edmund Husserl, philosophe allemand de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui a fondé le courant qu'on appelle la phénoménologie. Husserl, c'est une œuvre majeure qu'il est bon d'avoir en tête pour aborder ensuite Heidegger, Lévinas, Merleau-Ponty, Sartre et Beauvoir, et singulièrement d'ailleurs à propos de la question d'autrui qui occupe la fameuse méditation cartésienne numéro 5 de Husserl. Nathalie Deprat, outre Husserl que vous connaissez admirablement, vous vous intéressez aussi beaucoup à Beauvoir, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Depuis 5-6 ans, j'ai vraiment plongé dans toute l'œuvre de Simone de Beauvoir et ça a été vraiment un choc. Donc j'avoue que c'était une découverte tardive pour moi. J'étais beaucoup plus marquée par l'existentialisme sartrien que j'avais n'avais pas du tout d'ailleurs tellement travaillé ni admiré. Et du coup, ça m'avait, je pense, détourné en fait de la pensée de Simone de Beauvoir. Et je voudrais dire simplement qu'en fait, c'est vraiment l'ouvrage de Manon Garcia, On n'en est pas soumise, on le devient, qui a été un électrochoc.
Bon. Oui, Manon Garcia qu'on salue. Elle risque d'être beaucoup sur cette antenne et d'autres en ce moment pour un autre livre. C'est une des raisons, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas... Elle n'est pas avec nous dans cette série Beauvoir, mais je remercie à plusieurs invités, je les remercie d'avoir cité son travail. Une des questions premières qui se pose, c'est Beauvoir avait-elle lu Husserl, Heidegger, c'est-à-dire des textes en allemand? Sylvie Le Bon de Beauvoir.
Oui, bien entendu.
Elle lisait bien l'allemand.
Elle en parle d'ailleurs en long et en large dans La Force de l'âge. Et je crois qu'elle a hésité pour former sa propre pensée entre Hegel et Kierkegaard, d'abord, et qu'ensuite, pour surmonter certaines difficultés, elle s'est aidée de Husserl et de Heidegger.
Donc, elle avait lu. Et est-ce une différence avec Sartre? Sartre lisait-il l'allemand?
Oui.
Il l'avait lu aussi?
Pardon?
Il avait lu aussi, Sartre?
Sartre parlait couramment allemand.
Couramment allemand.
Il était allé jeune faire un stage à Berlin, à l'Institut français, pour étudier la phénoménologie de Husserl.
Donc les deux, en fait, avaient lu Husserl, Heidegger. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ils sont un peu servis. On a même entendu longtemps que Beauvoir avait lu et que Sartre avait bénéficié de son savoir sans avoir une pratique des textes aussi. On a dit beaucoup de choses, donc j'aime bien qu'on les rétablisse.
Dès 1933, il était à Berlin pour étudier Husserl.
Très bien. Et donc, vous pensez aussi, Nathalie Deprat, que dans l'œuvre tant de Sartre que de Beauvoir, il y a aussi une prolongation de la réflexion de Husserl, de Heidegger. Et évidemment, le troisième larron qu'il faut, si j'ose dire, évoquer, qui était leur ami à Beauvoir et Sartre, c'est Merleau-Ponty. Tous ces gens-là sont un peu dans la continuité de Husserl, certainement, de Heidegger dans une certaine mesure.
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, depuis la connaissance que j'ai des textes, enfin, essentiellement, on voit que aussi bien Sartre que Simone de Beauvoir avaient une lecture de première main, en fait, des textes de Husserl et de Heidegger. Même si on aura l'occasion peut-être d'en parler, ils les lisaient différemment, mais au sens du rapport au texte. Enfin, ils n'avaient pas du tout le même rapport au texte, puisque Sartre fait des analyses internes et critiques de Husserl et de Heidegger dans L'être et le néant. Alors que Simone de Beauvoir a un usage des références qui est plus un usage, disons, d'intégration, de réappropriation.
C'est ça, exactement.
S'approprier. C'est pas le même type de rapport au texte, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve que ça donne une vision alternative, en fait, du rapport à la philosophie.
Vous pouvez prolonger là ce que vous veniez de dire, ce serait très intéressant, Sylvie Le Bon de
Beauvoir. Je n'entends pas.
Vous pouvez la prolonger, votre remarque. Disons que la question est de savoir si Beauvoir n'a pas été, en un sens, plus fidèle à Husserl, par exemple, que Sartre. Elle avait un rapport très, très proche avec la philosophie husserlienne.
Bon, ça, je ne pourrais pas vous dire. Ils avaient en effet une approche différente je vous dis, pour elle, Kierkegaard, à mon avis, a été aussi important. Vous voyez, il faut pas privilégier Husserl. Et finalement, elle a élaboré sa propre pensée. Et c'est pas du tout en termes d'influence qu'il faut penser tout cela. C'est en termes de rencontre, parce que quand on lit ses cahiers de jeunesse, on voit que pendant ces années difficiles où elle s'est constituée, où elle dans une contestation permanente d'elle, de son milieu, elle a élaboré une réflexion personnelle qui est déjà existentielle. Et quand, plus tard, elle va adhérer à ce qu'on a appelé l'existentialisme, qui est en fait une ontologie phénoménologique, c'était déjà préparé justement par toute sa jeunesse, par tout son passé. Donc c'est une rencontre et elle est restée, tout à fait fidèle jusqu'à la fin à cette philosophie existentielle.
Alors justement, vous parlez de ce qu'elle a vécu.
Oui.
Et c'est très important dans la question du rapport à l'autre, peut-être, et oui, sans doute avant même les influences philosophiques. Parlez-nous, s'il vous plaît, de Zaza, Elisabeth Lecoing, son amie d'enfance, de jeunesse, qui est morte le 25 novembre 2029 à 22 ans.
21 ans,
pardon. Parlez-nous d'elle, s'il vous plaît, et de la rencontre entre Zaza et Simone.
Oui. Eh bien, je pense que dès l'origine, Simone de Beauvoir a eu une très grande ouverture à autrui. Mmh. Et elle écrit dans La Force des choses, j'ai eu le sens d'autrui, de l'amour, de l'amitié, de tous et de chacun. Et c'est cette ouverture, cet intérêt, cette chaleur qu'elle avait envers les autres, qui, en retour, ont suscité justement des réponses positives autour d'elle. Moi, ça m'a toujours frappée. En un sens, elle les créait, ces amitiés, par sa propre ouverture, par sa propre générosité à aller au-devant des autres.
Alors Zaza.
Et c'est là que Zaza intervient, vous voyez.
Qui est-elle ? Qui est-elle ?
Pardon ?
Qui est Zaza ?
Oui. Alors Zaza, Elisabeth Lecoing, comme vous l'avez dit, fait partie d'une fratrie de 9 enfants dans une famille bourgeoise, catholique. Et elle fréquente la même école que Simone de Beauvoir, le cours Désir. Alors, on voudrait dire désir, mais en fait, il n'y avait pas d'accent. C'est bien, on le regrette, c'est frustrant, mais enfin. Donc, elles vont toutes les deux petites, au cours Désir. Elles ont 10 ans. Et Simone est alors une petite fille bien rangée, tandis que Zaza est beaucoup plus turbulente, voire insolente, elle rue dans les brancards. Et ça émerveille la petite Simone de Beauvoir, et tout commence là. Donc, elles vont faire toutes leurs études secondaires dans ce cours privé catholique jusqu'au baccalauréat. Et entre elles se noue une amitié d'ailleurs beaucoup plus passionnée du côté de Simone de Beauvoir que du côté de Zaza. Et c'est seulement à la fin que ce rapport va s'inverser et que Zaza deviendra plus, comment dire, dépendante affectivement envers Simone de Beauvoir.
Qu'est-ce qui lui arrive avec son amoureux de l'époque,
Zaza? Son histoire est tragique puisqu'elle meurt à 21 ans. C'est une fille brillante, qui était une fille exceptionnelle, douée. Et
elle meurt de
Elle
quoi
doit se battre pour faire des études. Et surtout, elle doit se battre pour refuser le mariage arrangé que lui a préparé sa famille.
Avant sa maladie, dont on va brièvement parler, il y a le mariage arrangé.
C'est ça.
Qui l'empêche d'épouser quelqu'un qu'elle aime.
Et
à 19 ans.
L'ami de Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, et elle en devient amoureuse. Et en effet, elle veut l'épouser.
Mais
ses parents ne peuvent pas accepter ça, car une jeune fille ne doit pas choisir elle-même. Elle doit accepter le prétendant proposé par la famille. Bon, donc, Zaza, si vous voulez, elle meurt de la lutte qu'elle entreprend, qui dépasse ses forces contre son milieu.
N'allons pas trop vite, parce que là, restons en 1927, en juillet, elle envoie une lettre à Simone, où elle lui dit son chagrin. Et là, Simone, le 24 juillet 1927, lui répond par une lettre très, très touchante, où elle a une formule. J'ai vécu en vous si intensément pendant les heures avant d'écrire cette lettre. Autrement dit, votre chagrin me bouleverse, et j'y pense. Et si intensément, dit Beauvoir, que j'ai vraiment touché le fond de vous-même et que vous ne pourrez plus rien me dire que je ne comprenne, comme si j'étais un autre vous.
Oui, vous savez, c'est ça le sens de... Comme elle dit, j'ai eu le sens d'autrui. Oui, oui, c'était une très belle lettre.
Alors ensuite, c'est Merleau-Ponty qui va faire une
demande en mariage à Zaza. Elle n'est pas intéressée, je crois. C'est ça. Et par ailleurs, peu après, elle attrape une encéphalite virale dont là, elle mourra en 1929.
On ne sait pas. Là, vous voyez, c'est vraiment en quelle mesure, comment dire, les angoisses qu'elle a vécues ont créé la maladie, ou si c'est la maladie qui fait perdre ses forces. Mais c'est vraiment un conflit avec son milieu qui a tué Zaza, et Simone de Beauvoir a même parlé d'un assassinat. Elle considérait que son milieu avait assassiné Zaza. Mais, oui. Donc, comment dire, l'amitié qu'elle a eue pour Zaza l'a marquée, et toute sa vie, enfin, pendant longtemps, elle a essayé de ressusciter Zaza dans des heures, et finalement, elle le fera dans les mémoires d'une fille rangée très longtemps après.
Oui, à la fin des années 1950. Nathalie Deprat, maintenant, après cette expérience importante et les mots qui viennent d'être lus de Simone de Beauvoir, je voudrais qu'on parte de là pour penser la question d'autrui chez Beauvoir. Alors, c'est vrai que si elle a lu Husserl, la question d'autrui occupe la cinquième méditation cartésienne qui a été publiée par Husserl en 1929. Là, dans ce texte, pouvez-vous nous dire comment Husserl saisit autrui et surtout comment, après le moment d'étrangeté, c'est une effraction autrui, enfin, on n'a pas accès à ce qu'il y a dans la tête d'autrui. Comment, après ce sentiment d'étrangeté, il conclut à un analogue de moi-même et de ce fait, il exprime l'idée d'un lien. Est-ce que vous pouvez un petit peu, vous êtes une formidable prof de philo, spécialiste de Husserl, nous raconter un peu, c'est presque scénarisé, je trouve, la cinquième méditation cartésienne de Husserl.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que on sait que Simone de Beauvoir a lu les méditations cartésiennes. Elle n'en parle pas forcément beaucoup. Elle mentionne le texte comme ça, de manière un peu éparse. Elle ne fait pas une analyse interne du texte. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un lien construit, constitué, d'où proviendrait sa conception d'autrui à partir de Husserl. De manière très structurée. Mais en dépit de cela, ce qui est assez frappant, enfin moi ce qui m'a vraiment frappé, c'est une sorte de profonde convergence en deçà des références explicites entre Simone de Beauvoir et Husserl au niveau de la conception d'autrui. Est-ce que vous venez de rappeler la lettre où Simone de Beauvoir mentionne donc la présence de Zaza en elle, être vous en moi? C'est assez impressionnant parce qu'en réalité, dans la cinquième méditation, quand Husserl nous dit que le premier autre, enfin autrui, c'est vraiment le premier moi, on a le sentiment qu'en fait, la critique qu'il fait de l'autre comme étranger auquel on ne peut pas accéder, se réverbère dans l'idée que finalement, le plus important, c'est autrui en moi. C'est comment l'autre est en moi, l'autre est une présence interne à moi-même. Et ça, c'est plus important que le fait que je ne puisse pas accéder à autrui.
Parce que je n'ai pas accès à ce qu'il appelle sa sphère d'appartenance, comme ça qu'il parle.
Tout à fait.
Mais je sens tout de suite ce qu'il appelle une communauté. Je vous propose d'écouter ces quelques lignes de Husserl, extraites de sa méditation cartésienne numéro 5 en 1929.
L'autre, premier en soi, c'est l'autre moi. Et cela rend possible la constitution d'un domaine nouveau et infini de l'étranger à moi, d'une nature objective et d'un monde objectif en général, auquel appartiennent et les autres et moi-même. Il est dans l'essence de cette constitution, s'édifiant à partir des autres moi purs, que ceux qui sont autres, pour moi, ne restent pas isolés, mais que, bien au contraire, se constitue, dans la sphère qui m'appartient, bien entendu, une communauté de moi existant les uns avec et pour les autres, et qui m'englobe moi-même.
Communauté de moi, malgré le sens aigu de la différence majeure. Hein, j'ai pas accès à son intériorité, à l'autre. Merleau-Ponty, ami de Sartre et Beauvoir, prolongera largement cela. Nathalie Deprat, avec cette idée de que par ma chair aussi, je vois la chair d'autrui, qu'il y a là quelque chose d'analogue. Et ça passe peut-être encore davantage par le corps chez Merleau.
Mmh. Oui, oui, je pense qu'il y a une très forte proximité entre, de ce point de vue-là, entre Husserl, Merleau-Ponty et Simone de Beauvoir, concernant la question de la relation de proximité entre moi et autrui.
Donc d'appariement, disait Husserl.
D'appariement, de couplage, enfin, donc la notion de lien, enfin, qui sera centrale chez Simone de Beauvoir, elle est, à mon avis, il partage en fait cette conception d'autrui. Husserl parle d'autrui comme d'un alter ego. Donc en fait, on est vraiment dans la relation de proximité. Et c'est ça qui les réunit en fait tous les trois.
Et Sartre dans cette histoire. En 1943, il fait paraître L'être et le néant. On n'a pas l'impression que la question du lien à autrui soit première. Ce qu'il ressent, c'est où autrui me regarde et je me sens transcendée par lui et ce n'est pas agréable. Ou c'est moi qui le regarde et je le transcende. Sartre met en place quelque chose dont il affirme que ce n'est pas une dialectique.
Oui, oui, c'est...
C'est un cercle, dit-il.
C'est-à-dire, je pense que la figure, chez Sartre, la figure du conflit domine.
C'est le conflit, et même la séparation.
C'est ça, la séparation, le conflit, en fait, c'est cette dimension qui est majeure chez Sartre pour penser la relation à autrui. Alors qu'en fait, on y viendra peut-être, mais l'intérêt de la pensée de Simone de Beauvoir, c'est que même par différence d'avec Merleau-Ponty et Husserl, en fait, elle va chercher à penser les deux. C'est-à-dire, elle va chercher à penser à la fois le lien, l'amitié, donc ce qu'elle appelle aussi l'interdépendance, enfin de moi et d'autrui, et le conflit. C'est-à-dire, elle pense que les deux sont importants, et donc que la référence à Hegel comme à Husserl doivent être pensées ensemble. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve.
Donc là, il y a quelque chose qu'il faut qu'elle dépasse dans son propre rapport à Sartre. Parce que Sartre, lui-même, peut-être d'ailleurs, l'a un peu dépassé. En tout cas, en 1943, le rapport à autrui, c'est de là que ça vient, l'histoire de l'enfer, c'est les autres. Hein. Je vous propose d'écouter un extrait de L'être et le néant de 1943, suivi, vous verrez, par un exemple.
L'autre, comme regard sur moi, n'est que cela, ma transcendance transcendée. Les gens que je vois, en effet, je les fige en objet. Je suis, par rapport à eux, comme autrui par rapport à moi. En les regardant, je mesure ma puissance. Mais si autrui les voit et me voit, mon regard perd son pouvoir. Être vu me constitue comme un être sans défense pour une liberté qui n'est pas la mienne. Mon souci constant est donc de contenir autrui dans son objectivité, et mes rapports avec autrui objet sont faits essentiellement de ruses destinées à le faire rester objet. Transcender la transcendance d'autrui, ou au contraire, engloutir en moi cette transcendance sans lui ôter son caractère de transcendance, telles sont les deux attitudes primitives que je prends vis-à-vis d'autrui. Ces deux tentatives sont opposées. Chacune d'elles est la mort de l'autre, c'est-à-dire que l'échec de l'une motive l'adoption de l'autre. Ainsi n'y a-t-il pas dialectique de mes relations envers autrui, mais cercle.
Oh, il fut un temps où tu étais fier de m'avoir pour ami. Tu te félicitais de mon étrangeté, de ma propension à rester hors du coup. Tu aimais exposer ma sauvagerie en société, toi qui vivais si normalement, j'étais ton alibi. Mais à la longue, il faut croire que cette sorte d'affection se tarit. Sur le tard, tu prends ton autonomie.
J'apprécie le sur le tard.
Et je hais cette autonomie, la violence de cette autonomie. Tu m'abandonnes. Je suis trahi. Tu es un traître pour moi.
T'es mon mentor, si je comprends bien. Et si moi je t'aimais en qualité de mentor, alors toi, de quelle nature était ton sentiment?
Tu le devines?
Oui, mais je voudrais te l'entendre dire.
J'aimais ton regard, j'étais flatté. Je t'ai toujours sugré de me considérer comme à part, et j'ai même cru que cet à part était de l'ordre du supérieur, jusqu'à ce qu'un jour tu me dises le contraire.
C'est consternant.
Alors, comme illustration du rapport terriblement tendu à autrui chez Sartre, nous n'avons pas pris le théâtre de Sartre, nous avons pris Art de Yasmina Reza. En 1994, la représentation que vous entendez là, c'était Pierre Vanet qui incarnait Marc, Fabrice Lucchini qui incarnait Serge, et c'est une scène très dure de rupture d'amitié, comme si d'ailleurs, à la lumière de cette trahison, dit l'un des deux, leur amitié ancienne n'était finalement qu'un leurre, n'avait été qu'un leurre, qui à présent vole en éclats. C'est assez sartrien. Est-ce que, Sylvie Lebon de Beauvoir, il y a eu d'emblée, d'après vous, chez Beauvoir, dans sa lecture de L'être et le néant en 43, des réserves, une envie de penser un lien plus positif entre autrui et moi, autrui et soi-même?
Oui. Enfin, je voudrais quand même bien préciser que quand Sartre écrit dans Huis clos « L'enfer, c'est les autres », c'est une définition de l'enfer, pas des autres.
Quand même, non?
Non! Non, et justement, l'enfer, c'est les autres. Ça veut dire, il n'y a pas d'autre enfer qu'ici-bas.
Et oui, ça oui.
Il consiste dans le regard des autres quand ils nous condamnent. Alors, je dirais que, pour Simone de Beauvoir, les autres, c'est tout sauf l'enfer.
Oui.
Mais, l'enfer, c'est les autres, reste une vérité que, par exemple, elle va traiter dans L'Invité.
Oui.
Et dans beaucoup d'autres œuvres.
Et d'ailleurs, là-dessus, la lucidité de Sartre l'intéresse.
L'enfer, c'est une définition, pas une définition des autres. C'est complètement injuste.
Mais le risque d'avoir un moment extrêmement violent avec autrui où on sent que
le conflit
existe. Oui, c'est plus que
ça n'existe pas, le conflit, bien sûr.
Non, mais il y a plusieurs théories du conflit. On peut
oui, bien sûr.
Le conflit n'est pas forcément l'envie de détruire autrui. Mais entendu. Mais par contre.
Bien sûr. Je trouve réellement que c'est injuste.
À l'égard de ça, j'ai entendu.
Et c'est pas comme ça. C'est l'enfer, virgule. C'est l'enfer qu'il définit.
Vous êtes d'accord, Nathalie Deprat?
C'est vrai que dans un entretien ultérieur, justement, Sartre revient sur cette interprétation qu'on a faite de cette phrase oui. En 1943, enfin, à la réception de l'ouvrage. Et il indique bien qu'en réalité, il ne s'agit pas de voir l'enfer, enfin, l'autre comme un enfer. Mais c'est plutôt une tendance qui peut apparaître à certains égards et qu'il condamne lui-même. En fait, il condamne le fait qu'on comprenne autrui comme placé sous le signe de cette négativité oui. absolue. Et il dit, en fait, il s'agit de penser les choses autrement, mais c'est un constat qu'on peut faire et il faut essayer de le transformer.
C'est impossible dans le rapport à autrui, et d'ailleurs, c'est impossible actualisé, si j'ose dire, dans le roman L'Invité de Beauvoir en 1943, que vous venez d'évoquer, Sylvie Lebon de Beauvoir. Dans ce roman, il y a beaucoup de jalousie. Françoise fait une place à Xavier dans sa vie et Xavier aura une histoire d'amour avec Pierre qui est l'amoureux de Françoise ou même son mari. Et puis finalement, Xavier aura un autre amoureux, Françoise couchera avec cet autre amoureux. Et la relation entre Françoise et Xavier va se tendre terriblement jusqu'au point où Françoise va tuer Xavier. Ça illustrerait plutôt... Enfin, me semblait-il, avant de vous entendre, l'idée que même pour Beauvoir, le moment où autrui devient un être à tuer pour que j'existe, c'est quelque chose de fort chez elle aussi. C'est même le parcours de l'invité, non, de ce roman.
Oui, elle a mis en épigraphe « Toute conscience poursuit la mort de l'autre ». Alors, là, ce qu'elle veut... Ce qu'elle a voulu évoquer dans le roman, c'est la difficulté de la coexistence. Et elle a écrit ce roman à la suite d'une révélation vécue de ce que c'est que, justement, la présence de l'autre. Et d'abord, on se découvre comme conscience, le moi se découvre comme conscience au centre du monde, comme le sujet absolu. Et il a un problème à résoudre. Comment peut-il y avoir un scandale presque métaphysique? Moi, je suis un absolu, je suis au centre du monde. Comment peut-il y avoir plusieurs absolus? Donc, C'est ça qu'elle traite dans ce roman. C'est l'affrontement de deux consciences. Alors, Xavier représente la conscience solipsiste, close sur soi.
Oui.
Et Françoise représente l'illusion d'être le sujet absolu.
Qui peut prêter son mari ou son compagnon à une autre femme sans que ça pose problème, non. Qui pourrait avoir des amours, tout le monde pourrait avoir des amours pluriels, dans le respect, sans doute dans des moments d'hostilité ou de jalousie, mais non destructeurs. Et finalement, c'est un peu l'échec, la fin, non? Vous ne trouvez pas de
cette idée? Elle a voulu dramatiser un moment, et qui est le solipsisme, surtout qu'on a dans la jeunesse, de se croire le seul sujet absolu. Et elle pense que le problème de la coexistence n'a qu'une solution éthique, c'est-à-dire la reconnaissance de la réciprocité des consciences. Et l'invité est une fiction, c'est un roman métaphysique. Oui. Le meurtre, c'est un symbole. Mais enfin, vous avez parlé de jalousie, ceci, cela, de mari. C'est pas
un compagnon. Ouais.
C'est pas un roman sexuel. Hein. Il y a pas de sexe. Entre Pierre et Xavier, il n'y a pas de sexe, c'est pas ça. C'est vraiment l'affrontement des consciences. Mmh. Et là, elle a poussé la dramatisation littéraire jusqu'au meurtre, vous voyez. Mais en fait, la position de Simone de Beauvoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est toujours, toujours l'appel à la réciprocité. C'est-à-dire le dépassement du conflit. Mais ça, ça nous concerne tous, parce que pendant toute notre existence, nous cherchons le rapport juste avec autrui, et il est jamais définitivement acquis. Il faut le réinventer sans cesse.
Alors, puisque la question vous a été posée, je la relaie. Qu'en pensez-vous, Nathalie Deprat?
Oui, je pense que en fait Simone de Beauvoir est beaucoup plus hégélienne que Sartre. Enfin, en réalité, d'ailleurs, c'est très clairement dit
dans l'invité. Je ne parle que dans l'invité,
oui,
ce roman.
Mais
là, quand même, elle la tue à la fin. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de réconciliation.
J'avoue.
Je le dirais en allemand, si vous voulez. Il n'y a pas de Versöhnung, comme dirait Hegel.
D'accord.
C'est le meurtre à la fin.
Je suis d'accord. Si on s'en tient à l'invité, c'est un parcours effectivement qui est construit sous forme de moments, et on n'a pas le moment de la réconciliation. Il manque le moment de la synthèse, enfin, bien sûr, dans l'invité. Mais on pourrait dire deux choses. On pourrait dire que dans l'invité, on a une mise en place de la relation à autrui et aux autres, qui est, l'invité, c'est 43, hein, donc c'est
43.
Avant l'être et néant. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a dans l'invité tous les ingrédients de ce que Sartre va reprendre dans l'être et néant, mais à sa façon.
Donc c'est dans cet ordre que ça paraît?
Bah oui,
d'abord l'invité.
Bah, en fait, c'est quasiment contemporain. Mais
ensuite, l'être et le néant. Mais enfin, c'est la même année.
Mais en fait, Simone de Beauvoir écrit, vous me corrigerez, mais
en 41,
écrit l'invité beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'années avant, et en fait, ça mûrit.
Été 41, d'après ce qu'elle a dit.
Et du coup, on a en fait ce que Sartre va reprendre dans l'être et néant, quand c'est très bien dit dans la citation, l'idée d'un conflit ouvert. Il n'y a pas de dialectique.
Non.
Donc, il n'y a pas de résolution. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire qu'ils sont synchrones dans leur manière de comprendre les choses dans l'invité et dans l'être et néant.
Oui.
Sauf que Simone de Beauvoir va très vite dans les textes de 46-47, donc
pour et une morale de l'ambiguïté.
Et même avant, elle va très vite justement intégrer la dimension de résolution, de reconnaissance, de réciprocité que Sartre n'intégrera pas en fait. Et donc elle est plus hégélienne de ce point de vue-là.
Elle va le devenir en tout cas, voilà. Après ce roman de 1943, l'invité. Qui pourrait être un écho, lui, semble-t-il, assez vraiment proche de l'être et le néant, avec une vision d'autrui où quand même il faut en découdre un moment, c'est pas la réconciliation. En revanche, dans Pyrrhus et Cinéas de 1944, il semble que la question du regard d'autrui soit traitée différemment. J'ai besoin de ce regard, sans quoi, si je me regarde tout seul dans la glace, je suis vide, dit-elle, dans un passage, Pyrrhus et Cinéas, où elle parle notamment de l'enfant qui a besoin du regard de ses parents sur ses dessins, comme l'écrivain manifeste le besoin d'un regard des autres sur ce qu'il produit. Écoutez cet extrait lu par Anna Fulpin.
Dès qu'un enfant a achevé un dessin ou une page d'écriture, il court les montrer à ses parents. Il a besoin de leur approbation autant que de bonbons ou de jouets. Le dessin exige un œil qui le regarde. Il faut que pour quelqu'un, ces lignes désordonnées deviennent un bateau, un cheval. Alors le miracle s'accomplit, et l'enfant contemple avec orgueil le papier bariolé. Il y a là dorénavant un vrai bateau, un vrai cheval. Seul avec lui-même, il n'eût pas osé se fier à ses traits hésitants. Sans doute, nous n'essayons pas de changer ainsi en un dur diamant tous les instants de notre vie. Souvent, nous cherchons à accomplir notre être sans secours. Je marche dans la campagne, je brise une tige, je pousse un caillou du pied, je gravis une colline. Tout cela s'en témoigne. Mais personne ne se satisfait sa vie entière d'une pareille solitude. Dès que ma promenade est achevée, j'éprouve le besoin de la raconter à un ami. Le roi Candole veut que la beauté de sa femme éclate aux yeux de tous. Soro vit des années dans les bois, seul, mais au retour, il écrit Walden. Et Alain Gerbaud écrit « Seul à travers l'Atlantique ». Même Sainte Thérèse écrit « Le château intérieur » et Saint Jean de la Croix ses cantiques. Qu'attendons-nous donc d'autrui ?
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Sylvie Lebon de Beauvoir, dans ce livre « Pyrrhus et cinéaste » dont nous avons déjà parlé dans d'autres épisodes de cette série, le regard d'autrui, enfin, est pleinement exposé comme une chance. Vous êtes d'accord ?
Absolument. Et je dirais que c'est en rapport direct avec la vocation d'écrivain
de
Simone de Beauvoir. Elle a voulu exister pour autrui, par la littérature. Pour autrui, ça revient tout le temps. Et elle dit, j'ai pas voulu écrire pour faire de belles phrases, mais j'ai voulu écrire pour exposer ce que je pensais être vrai et aider les autres. Mm-hmm. Enfin, autrui est toujours là. Elle dit, pour moi, la littérature, c'est essentiellement la communication avec autrui, etc. Donc, je suis d'accord, oui, bien sûr.
Alors, elle va même développer dans ce livre de 1944 la notion de dévouement. Qu'est-ce que c'est que le dévouement pour Simone de Beauvoir ?
Je crois qu'elle a une approche critique du dévouement.
Je vous écoute.
Parce que je crois qu'elle explique surtout que le dévouement prétend se mettre au service d'autrui, mais très souvent est une manière d'annexer autrui.
Et souvent il est mensonger, souvent il n'est pas honnête.
Absolument. Très souvent, et c'est une duperie. Je ne pense pas qu'elle exalte le dévouement. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Nathalie Deprat, qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense que c'est ambigu, effectivement, parce que si le dévouement, c'est du sacrifice, d'une certaine manière...
Oui, c'est ça, c'est la notion de sacrifice, c'est un équivoque.
Et c'est une tyrannie haute, c'est
ça ? Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a un risque de...
Je me suis sacrifié pour toi, donc... Donc tu dois...
Tout à fait, tout à fait.
Donc il y a une dette et un contrôle.
C'est ça, c'est...
Il y a une forme d'illusion aussi à soi-même. Enfin, je pense
qu'on
n'est pas loin de la mauvaise foi, enfin, d'une certaine façon. Enfin,
si on C'est-à-dire ce serait l'équivalent, Nathalie Deprat, de la mauvaise foi de Sartre, où on se raconte qu'on n'est pas libre alors qu'on l'est, on se donne des tas de raisons.
Tout à fait.
C'est la mauvaise foi sartrienne. Là, on se donne des bonnes raisons et on croit qu'on obéit à une injonction qui intéressait Beauvoir, c'est la sienne, hein. Non pas jouir mais servir, elle écrit ça dans ses cahiers de jeunesse. On croit qu'on est là-dedans, qu'on est quelqu'un de bien, parce qu'on est dans le dévouement, mais en fait souvent on est dans le narcissisme, c'est ça ?
Oui, il y a un risque.
Tout à fait, il y a un risque et c'est je pense, la mauvaise foi située sur un plan vraiment moral. Ce qui est différent de la mauvaise foi de Sartre, qui est quand même très ontologique et pas située sur le plan moral. Donc je pense qu'il y a une différence de conceptualité de la mauvaise foi de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il y a une autre notion qu'on peut faire jouer pour peut-être affiner tout ça, c'est la notion d'appel. C'est-à-dire, en réalité, le dévouement comme sacrifice, en fait, c'est problématique. En tout cas, ça peut susciter de l'ambiguïté, dans un mauvais sens du terme.
Oui.
Alors que l'appel d'autrui, c'est vraiment constitutif de ce que je suis. En fait, autrui est justement en moi parce que c'est une part intégrante de l'appel que je ressens vis-à-vis de lui.
Alors, donc, je suis très contente que vous fassiez appel, si j'ose dire, à cette notion d'appel parce que j'entends très fortement Lévinas, par exemple, pour lequel autrui m'adresse un appel. C'est très important pour la pensée de Lévinas, qui lui-même était un élève de Husserl, qui a connu Heidegger, etc. Or, si j'ai bien compris, Beauvoir déteste Lévinas. Est-ce que je me trompe? Il y a un tas d'endroits où, franchement, elle est d'une violence. Donc, j'ai du mal à comprendre. C'est peut-être des raisons humaines que nous, dont nous ignorons toute la nature, mais peut-être que c'est philosophique et conceptuel. Nathalie Deprat ou Sylvie
je crois que c'est
Le Bon de Beauvoir.
Que c'est uniquement qu'elle ne déteste pas Lévinas. C'est une prise de position philosophique. Je viens de relire, justement, moi, des phrases de Lévinas. Et pour lui, les femmes, elles sont, il écrit textuellement, l'altérité absolue. Donc, c'est dans la perspective du deuxième sexe.
Ah, c'est le féminisme.
Vous comprenez? Ben, le féminisme, enfin, c'est...
Enfin, non, pardon, c'est-à-dire excusez-moi, je voulais pas vous insulter, non, excusez-moi.
M'insulter?
Non, mais le mot féminisme, non, mais, je sais, au moment du deuxième sexe, n'est pas valorisé par Beauvoir. Mais c'est l'idée, c'est en fait, c'est quelque chose de... Un manque de conscience de l'enjeu des femmes qui est critiqué chez Lévinas par Beauvoir. C'est ce point qui fait problème.
Oui, c'est que... Il est un des représentants de, justement, ceux qui disent que la femme, c'est l'autre avec un grand A, et donc absolument pas le même, et pas une semblable. Donc, comme ça vise quand même la moitié de l'humanité, évidemment. Mais c'est pour ça que Simone de Beauvoir s'oppose à Lévinas, et non pas par aucun sentiment personnel. Il faut comprendre les passions intellectuelles indépendamment... des passions tout court.
Nathalie Deprat.
Oui, il faut resituer les choses aussi. On est en fait, le lien de Simone de Beauvoir avec Lévinas, c'est cette note de bas de page très connue du début du deuxième sexe où elle prend connaissance, elle a eu connaissance des textes de Lévinas, Le Temps et l'Autre, des conférences de 46-47, auxquelles elle n'a pas forcément assisté, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, elle en a eu connaissance tout de suite. Et là, en fait, c'est vrai qu'elle stigmatise chez Lévinas cette conception de la femme comme l'autre. Que Lévinas valorise, en fait. Pour lui, la femme est l'autre parce qu'elle est mystère, parce qu'elle est... donc, c'est très valorisant.
Elle déteste le mythe du mystère féminin.
Bah, elle va considérer que penser la femme comme autre, c'est la rejeter hors de la communauté possible de partage avec l'humanité. Donc, en fait, et qu'en fait, c'est aussi mythifier la femme comme l'éternel féminin. Enfin, en fait, tout ce qu'elle critique au début du deuxième sexe. Donc du coup, il y a une sorte, on pourrait dire qu'il y a une sorte de malentendu fondamental entre Beauvoir et Lévinas, parce qu'ils n'entendent pas la même chose sous la notion d'autre et d'altérité. Et pour Simone de Beauvoir, l'altérité entendue comme autre absolu ne peut être que problématique et négative, en fait. Alors que si, pour Lévinas, au contraire, c'est une façon de faire droit à la femme,
oui,
de la considérer comme un mystère. Donc du coup, ils peuvent pas s'entendre, c'est orthogonal. Enfin, à ce stade, finalement, la conception de Beauvoir, elle résonne sur. Enfin, dans cette note, elle dit, mais quand même, on peut pas imaginer que Monsieur Lévinas ne considère pas que les femmes aient aussi une conscience. Bah, bien sûr que Lévinas sait que les femmes ont une conscience. Simplement, le terme de conscience et de liberté, ce sont des concepts internes à la pensée existentialiste que ne partage pas Lévinas. Donc en fait, les coordonnées ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas s'entendre, en fait. Ils sont forcément dans des conceptions philosophiques opposées. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre les
Entendu.
Choses.
Alors maintenant, je voudrais vous poser une autre question qui concerne ce roman de 1945, Le sang des autres, ce roman de Beauvoir. Avant, nous parlions de textes écrits pendant la guerre. Cela dit, Le sang des autres est aussi écrit pendant la guerre. Il paraît juste après. Mais il n'y avait pas la question politique du tout. On peut d'ailleurs s'en étonner. L'invité, ce sont des questions d'histoire d'amour, de conscience, dans une vie somme toute privée. Il y a des problèmes moraux. Mais bon, en 41, elle l'écrit, elle publie en 43. Il se passe beaucoup de choses politiquement. C'est absent. En revanche, en 45, Le sang des autres évoque une situation politique, puisque Jean Blomard, qui vient d'un milieu assez aisé, épouse Hélène, qui est folle de lui, et il finit par s'engager, lui, dans la résistance, ce qui déplaît à Hélène. Si je simplifie, vous me corrigerez, hein, bien sûr. Et dans cet amour, Hélène va souffrir parce que Jean Blomard a des engagements politiques qui la tiennent éloignée d'elle. Et puis, il va poser une bombe, il va y avoir un attentat, et par le hasard de la vie, Hélène, qui par ailleurs semble presque avoir envie de se venger en s'engageant, elle, du côté de Vichy, elle va mourir. Alors je vous propose d'écouter l'incident. Elle va mourir de l'attentat perpétré par son propre mari. Je vous propose d'écouter l'incipit du livre, le début, mais qui en fait raconte la fin, la mort d'Hélène.
Hélène. Mon Hélène. Tu parais dormir et cependant tu ne dors pas. À cause de moi. Parce que je ne t'ai pas aimé, parce que je t'ai aimé. Parce que j'existe. Au milieu de ton cœur, un petit morceau d'acier qui est à la fois une présence et ta mort. Non, ce n'est pas possible. Je voudrais crier grâce. Il n'y a pas de grâce. Oh, mal aimé, j'ai décidé ta mort. J'avais pourtant dit, je ne lèverai pas un doigt pour faire tuer un homme. Mais j'ai de nouveau voulu agir et parler, et tu meurs. Je ne reverrai pas tes yeux vivants. Je voulais seulement la justice. Mais la justice pour qui ? Pour moi ou pour les autres.
C'est le comédien Jean de Sailly qui incarne le personnage de Jean du roman Le sang des autres, ici adapté pour la radio en 1951. Bon, moi je vous dis franchement, je ne comprends pas bien la culpabilité de Jean. Si vous voulez, bon, il s'est engagé. Je vois pas bien pourquoi il se sent coupable. Je comprends qu'il soit triste, évidemment, de la mort d'Hélène. Je comprends pas très bien ce roman. J'aimerais bien vos lumières, Sylvie Lebon de Beauvoir, et comprendre ce que ça aide à saisir de la vision des autres chez Beauvoir.
Oui. L'ami en épigraphe Dostoïevski, chacun responsable de tout devant tous. C'est un problème existentiel. Bon gré, mal gré, nous intervenons dans des destins étrangers, dans les existences d'autrui, que nous le voulions ou non. Et c'est ça que Blomard refuse. Mais c'est impossible.
Ce personnage, Jean Blomard.
C'est ça, Jean Blomard.
N'empêche qu'il s'est engagé, est-ce qu'il met en cause son engagement, qu'il a conduit à faire cet attentat ?
Non, c'est que... Il s'engage dans la résistance, d'accord, et il est obligé de prendre des décisions. Et donc, il entraîne ses camarades dans l'action, et Hélène, qu'il aime, dans l'action. Et les conséquences sont tragiques. Et lui, qui ne voulait pas admettre d'intervenir dans les destins étrangers, là, il est mis face à face, si vous voulez, avec une réalité.
Mais est-ce que...
Et c'est pour ça qu'il se sent coupable de la mort d'Hélène. Mais Hélène, à la fin, le disculpe totalement. Elle lui dit non, je me suis engagée librement. C'est moi qui me suis engagée dans l'action. Tu n'es pas comptable de ma liberté.
Entendu.
Et donc, ça veut dire que ce que nous représentons pour autrui, que ça nous plaise ou non, il faut l'assumer, mais sans s'y aliéner. C'est ça que veut dire. Et c'est pour ça qu'il se sent coupable. Mais
elle lui dit de ne pas l'être, de ne pas se sentir.
Elle le dédouane.
Elle qui a.
Elle lui dit ouais. Tu n'as pas à endosser mon acte. Je me suis engagée dans la résistance avec toi.
Nathalie Deprat.
Oui, je pense que ces notions de, c'est vrai, de culpabilité et de responsabilité, elles peuvent nous paraître un peu étranges dans la conception beauvoirienne au départ, enfin, parce qu'on a d'autres référentiels en tête. On a un référentiel avec Karl Jaspers, au constat de la culpabilité allemande, On a un référentiel lévinassien avec la notion de responsabilité infinie pour autrui. Donc c'est vrai qu'on est un peu... si on a ces référentiels en tête, on ne comprend pas très bien en fait, cette interaction. Et, mais je pense que ça relève effectivement... Enfin, moi, j'aime bien cette notion de, qu'on voit apparaître chez Beauvoir, en fait, hein, d'interdépendance. Enfin, qu'on le veuille ou non, c'est ce que vous disiez, on est lié à autrui. Et on est... alors, on n'est pas dépendant au sens d'une dépendance affective. Hein, on est interdépendant. C'est-à-dire, en fait, on se construit ensemble. Et il y a quelque chose qui est inévitable de ce point de vue-là. Ce qui fait que ces relations complexes et ambiguës, mais au sens fort, hein, Beauvoir de l'ambiguïté, c'est l'ambiguïté dans un sens de complexité.
C'est-à-dire ? Parce que j'ai toujours pas bien compris.
Bah, la notion d'ambiguïté, on la pense négativement la plupart du temps. Enfin, on pense l'ambiguïté comme ambivalence, enfin, en un sens très psychanalytique. Alors qu'en fait, chez Beauvoir, l'ambiguïté, c'est une ambiguïté qui est liée à la complexité de la situation, de la relation avec autrui. Mmh. Et le fait que quoi que je fasse, je ne peux pas éviter la relation avec autrui. Elle est là, elle me constitue de façon interne. Et alors Beauvoir utilise le terme de destin, mais c'est faut pas le prendre non plus en un sens fataliste. Enfin, parce que le destin, ça veut dire c'est ce qui me structure.
Oui, c'est comme en politique, même ne pas choisir, c'est choisir.
Voilà, exactement, tout à fait.
Et le fait, ce sera ma dernière question, que Jean dans ce personnage s'engage tôt dans la résistance. Elle met là en scène un personnage qui s'est engagé plus tôt qu'elle-même dans la résistance, plus tôt qu'elle et Sartre. Et puis après, elle fait peser sur lui un sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que vous entendez là ? Elle publie ce texte en 1945. Elle dit quelque chose sur elle aussi, Beauvoir ?
Ça, non, je ne crois pas. Je crois qu'elle veut dire ce que nous essayons d'évoquer.
Oui.
Mais... non, je pense que elle écrit, elle dit que ça a été un malentendu parce qu'on a pris le sang des autres pour un roman sur la résistance, alors que c'était un roman sur la responsabilité. Et on peut l'extirper, ce problème de la responsabilité du moment historique. Il est aussi valable aujourd'hui, dans ce que nous vivons dans le monde. Nous sommes toujours responsables de tout, devant tous. Vous voyez, c'est ça, je veux dire que c'est un roman sur la responsabilité que nous avons et que nous refusons très souvent, bien sûr. Mais encore une fois, même si on ne veut pas choisir, ben c'est une façon de choisir. Et ça, c'est valable à toutes les époques, non ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs très ancien. Vous évoquiez les cahiers de jeunesse de 26-27. Dès ces moments-là, en fait, Beauvoir est déjà... qu'on conçoit l'altérité et autrui comme... constitutif de sa pensée, en fait, avant même la rencontre avec Sartre, d'ailleurs.
Bien avant, mais...
On se serait croisé ici ou ailleurs, l'un à l'autre étranger, dans la rue, dans un bar. Solitude à la gorge, le cœur en dérive, en buvant du cafard, en rêvant d'autres rires. Une musique grêle, douce comme la pluie, aurait pour nous jouer un air, air de jadis ou de naguère, pour unir nos mélancolies. Et on aurait dansé cette chanson triste sur les pavés mouillés, l'un à l'autre étranger. On aurait traversé comme en rêve Paris, qui toujours chante au cœur, toujours la même antienne. Serions-nous allés derrière et quelle porte cacher ce bonheur fou que le hasard apporte. En deux soleils de chèvre, on se serait brûlé comme deux étoiles filantes qui auraient traversé la chambre. L'amour nous aurait embrasés sans jamais se connaître. On se serait quitté.
Sous les yeux
des fenêtres, l'un à l'autre étrangers.
Marcel Mouloudji, l'un à l'autre étrangers, chanson de 1967. Merci beaucoup Nathalie Deprat et Sylvie Lebon de Beauvoir. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la perte et à l'orientation. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'orientation est-elle politique ? La notion d'orientation, qui peut sembler secondaire, qui peut sembler métaphorique, est aussi aujourd'hui au cœur de nos sociétés et au cœur de la politique. D'un côté, l'orientation, c'est une image. C'est l'image, comme Kant lui-même le disait dans « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», c'est l'image de la boussole, c'est l'image des repères, c'est l'image de la capacité, à partir d'un endroit du ciel, à déduire la place de tous les autres. Mais Kant déjà montrait comment l'orientation suppose aussi des capacités subjectives. Le fait, pour les humains, de pouvoir distinguer la gauche et la droite, le devant et le derrière. Bref, une capacité boussole intérieure en quelque sorte de s'orienter soi-même dans le monde, d'orienter sa subjectivité. Mais cela ne suffit pas. Nous savons dans les expériences de l'égarement les plus profondes, dans les expériences profondes de l'égarement, de la perte, nous savons que la perte et l'égarement sont d'abord des expériences intersubjectives. Nous savons que la perte, qui pour nous signifie toujours aussi le deuil, ce n'est jamais la perte d'un objet ou d'un repère, de quelque chose, mais de quelqu'un. Et que ce sont ces pertes qui conduisent aux égarements les plus profonds, au fait d'être perdu. Mais si ces expériences relationnelles sont profondes, ce n'est pas encore cela qui fait de l'orientation un problème politique. L'orientation est aussi un problème politique parce que nous pouvons être perdus dans la société elle-même, parce que nous devons nous orienter non seulement dans le maquis du monde et le maquis de la pensée, l'histoire de la philosophie, un monde quand il devient perturbé, un monde où se perdent les repères, les frontières, et où chacun doit s'orienter, même au risque parfois de durcir les frontières du monde. Non, nous sommes aussi dans une société où l'orientation a d'abord été construite à travers des repères fixes, des repères sociaux, des repères intangibles en quelque sorte, dans le monde de la tradition. L'orientation n'est pas un problème, car chacun sait où il est, où il va, ce qu'il va faire, son métier, prendre le métier de ses ancêtres, mourir là où l'on est né, c'est un monde au fond où la question de l'orientation sociale, historique et politique ne se posait pas. Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile, en 1762, montrait bien justement que l'éducation moderne devient un problème car il faut éduquer l'enfant à tout les métiers possibles, car le métier traditionnel, la préorientation par la tradition n'est plus possible. Alors justement, l'éducation devient la capacité à s'orienter dans le monde. On comprend alors pourquoi l'orientation est au cœur des politiques sociales et des politiques tout court, parce qu'il faut donner aux citoyens le sentiment qu'il y a des repères pour s'orienter dans la vie et dans le monde, mais elle est aussi au cœur des politiques éducatives. Si l'orientation, le conseiller d'orientation, la fonction d'orienter les élèves, les enfants, les adolescents dans les métiers auxquels qui leur seront les plus adaptés, auxquels ils pourront le plus répondre, dans lesquels ils ne seront jamais perdus, qui répondront à leurs désirs, si l'orientation devient un problème politique, ça n'est pas de manière secondaire, ça n'est pas de manière métaphorique. Peut-être la désorientation sociale est-elle liée précisément au fait que se sentir orienté individuellement, tenu par la main pour se repérer dans le maquis des métiers possibles, dans le maquis de la société, est-il la condition pour que le monde soit vivable, pour que l'on ne transforme pas l'expérience de l'égarement en incitation à la violence ?
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger. Elle a été préparée en particulier par Axel Dubois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Shaima Jibouar, Carla Michel et Nassim Elkabli. Et à la technique ce matin, c'est Paul Geek. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.